Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés. Nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.
Dans un monde meilleur, on ne mènera plus la santé, on aura compris quelle est la base de la survie de l'espèce. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue, vous écoutez Parole d'éthique sur Delta FM 90.2, la radio du lycée Pilote Innovant International. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet peu médiatisé et dont on ne connaît pas beaucoup l'existence, mais qui pourtant est important. Nos intervenants vont nous éclairer sur le problème des cobayes humains et s'il est nécessaire de les utiliser pour faire avancer la science et sauver des vies. Nous accueillerons aujourd'hui Madame Prude, PDG d'une entreprise pharmaceutique et une étudiante utilisée pour des tests, préférant rester anonyme. Nous l'appellerons donc Mathilde. Nous les retrouverons toutes deux dans la seconde partie de l'émission. Mais dans quelques instants, nous recevons Madame Tosi, médecin dans un centre hospitalier pratiquant les tests sur les humains, et tout de suite présente à nos côtés Madame Millory, militante d'une association contre l'utilisation des cobayes humains, dont nous allons laisser la parole. Bonjour Madame Millory.
Bonjour Lisa. L'association pour laquelle je milite a été fondée il y a une dizaine d'années en réaction aux dérives des tests médicaux. En effet, les tests cliniques ont souvent des ratés aux conséquences graves qui auraient pu être évitées. Ainsi, en 2006, c'est un médicament censé guérir la leucémie, le TGN-1412, qui est testé. Seulement quelques minutes après le test, 6 volontaires ont été victimes d'un syndrome de défaillance multiviscérale. En 1996, 11 enfants sur 200 sont morts à cause des essais du Trovan, un médicament contre la méningite. D'autres ont été affectés de séquelles cérébrales et motrices. C'est pourquoi notre but est de limiter ces intoxications et d'inciter le gouvernement à créer des lois pour cela.
Merci Madame Millory pour ces précieuses informations. Madame Tosi, vous qui pratiquez l'expérimentation sur les humains dans un centre médical, comment réagissez-vous face à ces propos ?
Bonjour Lisa. Je travaille en effet dans un centre où sont réalisés chaque jour des tests sur des personnes consentantes et j'insiste bien sur ce fait. Toutes les personnes que nous accueillons ont été informées au préalable des risques possibles et ont pris librement la décision de faire ces tests. Cependant, les complications et les effets secondaires indésirables sont peu courants, voire quasiment nuls. Par ailleurs, ce que peu de personnes savent, c'est que chaque patient est suivi avant, pendant, mais aussi après, pour éviter ainsi tout risque de complications. De plus, chaque patient est rigoureusement choisi pour répondre à nos critères, mais aussi pour éviter d'éventuelles complications. Les excès sont donc impossibles dans notre pays puisqu'il est interdit de cumuler un trop grand nombre d'expériences et chaque test est validé par l'AFSSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces tests sont souvent décrits comme dangereux mais sont souvent indispensables. Un produit non testé mis sur le marché pourrait causer des dommages inconsidérables sur des milliers d'individus.
Merci. Pour compléter vos paroles, nous allons passer une interview d'un professeur de SVT qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui va nous exposer son point de vue.
Au courant des expériences pratiquées sur des cobayes humains, cela vous choque-t-il et pourquoi ?
Ah non, ça ne me choque pas. Ça me choque à la limite moins d'utiliser des cobayes humains consentants que d'utiliser des baleines pour faire du rouge à lèvres alors qu'elles n'y sont pour rien.
Pensez-vous que ces expérimentations soient nécessaires pour faire avancer la science ?
C'est nécessaire. Il faut bien à un moment donné passer des examens de laboratoire avec des animaux autres qu'humains pour valider sur l'homme.
Scientifiquement parlant, les tests réalisés en Europe sont-ils dangereux ?
En Europe, c'est trop vaste, parce que si tu prends les Anglais ou les Français, la loi bioéthique n'est pas du tout la même. Il y a des choses qui sont faisables en Angleterre, qui ne le sont pas en France.
Sinon, comment expliquez-vous les accidents qui ont eu lieu depuis quelques années ?
C'est facile. Je crois que c'est pas qu'ils sont morts depuis quelques années, c'est parce qu'avant on n'en parlait pas, et que maintenant on ne trouve que ce que l'on cherche. Aujourd'hui, la loi bioéthique, elle est au vu et au su de tout le monde, donc on en parle. Avant, on n'en parlait pas. Mais les contrats, et que le cobaye qui s'engage, il le fasse en connaissance de cause. Si dans le contrat il n'est pas stipulé tel ou tel risque, ça n'est pas normal. Si c'est stipulé, tu prends tes propres risques.
Et si vous aviez eu besoin d'argent, auriez-vous accepté de mettre votre vie, votre santé en danger pour financer par exemple vos études?
Bah, la réponse, je crois qu'elle est oui, mais ça dépend du risque. Si on me dit il y a 8 risques sur 10 que vous mourriez, j'aurais dit non. Mais si c'est un risque sur 3,5 millions par exemple d'avoir le tétanos quand tu te vaccines contre le tétanos, là le risque il est minime.
Madame Hillory, avez-vous quelque chose à ajouter avant la pause musique?
Oui, j'aimerais revenir sur les propos du professeur de SVT. En effet, je partage son point de vue. Si les cobayes sont informés des risques, et toutefois consentants, je ne vois pas d'obstacle à la réalisation de l'expérience. Cependant, les limites ne sont pas toujours respectées. C'est pourquoi de nombreuses associations existent dans le but d'aboutir à des lois pour réglementariser les essais cliniques. Notre association a dénoncé des manquements en loi éthique. Nous avons averti les comités éthiques qui ont pu redéfinir des limites. Cependant, ces limites ne sont pas encore suffisamment marquées pour éviter de graves accidents. L'association tente de faire respecter les règles éthiques pour la protection des expérimentateurs.
Et à présent, une petite pause musique par Elbow avec The Bones of You. Dans un court instant, vous retrouverez Madame Prude et Mathilde, mais également Madame Millory et Madame Tozzi, que nous venons d'écouter.
You are high. Stood in the street like a sleepwalking teenager, you know. And I dealt with this years ago. I took a hammer to every memento, but image on image, like beads on a rosary, pull through my head as the music takes hold and the sickener hits. I can work till I break, but I love the bones of you that I will never escape. It's you and it's me, and we're sleeping through the day. And I'm 5 years ago, and 3,000 miles away. And I can't move my arm for fear that you will wake. And I'm 5 years ago.
De retour sur Delta FM 90.2. Vous écoutez en ce moment même Parole d'éthique, est-il nécessaire d'utiliser des cobayes humains pour faire avancer la médecine et sauver des vies? Nous avons été rejoints comme prévu par Mathilde, l'étudiante qui a subi des tests mais qui a préféré rester anonyme. De plus, Madame Prude, PDG d'un centre pharmaceutique qui a réalisé des tests sur les humains en toute légalité. Madame Prude, pouvez-vous nous parler de votre entreprise?
Bonjour. En effet, je travaille dans un centre de recherche qui pratique de nombreux tests afin de s'assurer de la fiabilité des médicaments prêts à être mis sur le marché. Nous avons pratiqué de nombreuses expériences concluantes, notamment ces tests qui ont conduit à l'élaboration de nombreux vaccins. Ainsi, les patients n'encourent aucun risque en intégrant des médicaments qui vont au contraire leur sauver la vie.
Je ne suis pas d'accord. J'ai subi moi-même l'égoïsme des médecins. J'avais 18 ans et je voulais continuer mes études. Étant issu d'une famille pauvre, je devais les financer par moi-même. On m'a conseillé de devenir cobaye humain sans risque et me rapportant assez pour poursuivre mes études. Ce n'était que des mensonges. Maintenant, je suis immunodéficiente. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça sans risque. Les centres cliniques sont totalement irresponsables. Ils ne mesurent pas les risques encourus par les cobayes humains innocents. Les scientifiques de ces centres ne pensent qu'au progrès et à leurs intérêts. Ils sont aveuglés par leur gloire future s'ils mettent au point un nouveau vaccin, mais ils ne songent pas aux conséquences. Ils ne se rendent pas compte que les cobayes sont des humains et les traitent comme des objets sans la moindre considération. Notre vie est insignifiante à leurs yeux.
Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Cette jeune fille fait malheureusement partie de la minorité de personnes ayant des effets secondaires permanents après avoir participé à des tests expérimentaux. Ces tests sont les premiers réalisés sur l'homme. Le risque zéro n'existe donc pas, mais tout est mis en œuvre pour diminuer au maximum les risques de complications. Ces tests ne sont donc pas sans danger, cette demoiselle ici présente en est la preuve vivante, mais malheureusement ils sont indispensables. Pensez-vous vraiment que nous continuerions s'ils ne portaient pas leurs fruits, que nous gâcherions des vies humaines juste pour notre petit plaisir? Soyez réalistes, ces tests sont nécessaires. Les médecins comme moi qui réalisent ces tests sont pour la plupart passionnés. Ils ne vivent que pour faire avancer la médecine et sauver le plus grand nombre possible de personnes, non pas pour en rendre un malade un maximum.
mais je trouve dommage que certaines grandes entreprises pharmaceutiques et les patients sur lesquels nous procédons ces essais réalisent ces tests dans l'unique but de gagner un maximum d'argent. Pour moi, la science et la vie de milliers de personnes passent avant tout, mais il faut éviter les dérives. C'est ce que nous nous efforçons de faire en France depuis des années.
Certes, mais ces tests médicaux sont dangereux pour la santé des cobayes. Eux-mêmes ne le savent pas, mais certains seront intoxiqués, voire même tués des suites de l'expérience. En effet, certains tests ne se déroulent pas dans des conditions d'hygiène correctes, et les cobayes ne sont pas toujours suivis par la suite. Mais les tests en eux-mêmes restent dangereux et hasardeux. La théorie n'est pas suffisamment fiable pour assurer la sécurité des cobayes. Ainsi, des expériences plus ou moins légales sont pratiquées, et ce, dans le monde entier.
Je vous remercie, Madame Milori, pour cette intervention. D'ailleurs, j'ai récemment lu dans The Times of India un article qui révèle qu'à New Delhi, 49 bébés, dont la plupart avaient moins d'un an, sont morts suite à des expérimentations pour de nouveaux médicaments. Madame Prude, pouvez-vous nous en parler ?
Il n'existait pas d'autre solution. Il fallait trouver un médicament rapidement contre la carence en zinc, l'hypertension artérielle ou encore une maladie du foie. L'expérience ne présentait aucun risque, car elle avait été soigneusement étudiée auparavant. Les décès des cobayes est survenu car ils étaient déjà atteints de maladies graves avant le test. Ce n'est pas dû à l'expérience qui s'est déroulée parfaitement dans les normes. Si les comités d'éthique l'ont accepté, cela prouve que le test assurait la sécurité des cobayes. C'était donc tout à fait légal.
Mais ça ne peut pas être légal. Cet essai a fait 49 victimes. Il s'agissait de nourrissons de moins d'un an. Les médecins ont profité de leur présence à l'hôpital pour leur injecter de nouveaux médicaments pédiatriques. Par la suite, ils ont réalisé 42 séries de tests sur 4142 bébés. Ce n'est même pas pour les progrès de la médecine en Inde, mais pour des laboratoires étrangers. Ces essais sont extrêmement récents. Ils ont eu lieu en août dernier. Les scientifiques sont irresponsables d'utiliser des laboratoires dans des pays moins développés pour pratiquer des tests immoraux.
Ces tests montrent parfaitement les dérives possibles que j'évoquais tout à l'heure. Les médecins qui réalisent ces essais ne suivent pas d'assez près leurs patients. Les risques sont alors presque inévitables. Cela est inacceptable, d'autant plus que les familles n'étaient pas informées et que leur consentement n'était pas toujours donné. Mais ces tests sont fréquents dans ces pays puisque leurs législations sont moins strictes que dans les pays développés. Les entreprises pharmaceutiques des pays riches en profitent donc pour pousser des expériences plus loin que chez nous. Ces tests sont importants, certes, mais ils devraient être réalisés dans nos cliniques où nous avons le matériel nécessaire d'un point de vue médical et un suivi obligatoire des patients.
Vous voulez dire que certains médecins des pays en voie de développement réalisent ces expérimentations sur les humains sans le consentement des patients et que les effets secondaires sont immanquables? Et ces expériences sont légales? C'est absolument scandaleux! Et ce genre d'affaires sont une habitude ou seulement une exception?
Il s'agit d'une pratique relativement courante, notamment en Afrique, car les laboratoires de tests européens délocalisent de plus en plus vers ce continent pour des raisons financières. Les firmes pharmaceutiques organisent des essais cliniques dans ces pays au mépris de l'éthique et de la sécurité des patients. Mais le pire est que les tests sont pratiqués sans le consentement des cobayes. De nombreuses personnes sont décédées à la suite des essais de l'antiseptique Stalinone ou du talc Morange. D'autre part, les cobayes sont très mal informés. Au Cameroun, le test du tenofovir, un médicament contre le sida, a été pratiqué sur 400 prostituées. Cependant, elles étaient totalement illettrées et la lettre d'information qu'elles ont reçue était en anglais. Elles ont accepté en croyant à un vaccin. Les autorités locales ne contrôlent pas les laboratoires et par conséquent, ceux-ci ne respectent pas les règles des comités d'éthique. La plupart des médicaments testés en Afrique ne sont même pas destinés à la population africaine mais européenne.
En bref, ces personnes participent à la confection d'un médicament qui, au terme des expériences, ne leur serviront même pas puisque ceux-ci seront administrés à des Européens et donc à des personnes aisées.
Il paraît évident que les médicaments expérimentés en Afrique doivent correspondre aux besoins du continent et non au nôtre. En effet, la population africaine ne doit pas être exploitée pour les biens des Européens.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On abuse de la pauvreté de certains pays pour réaliser des tests qui, la plupart du temps, sont extrêmement dangereux comparés à ceux réalisés en Europe. De plus, ces essais sont très peu reconnus par notre société.
Certes, mais je ne vois pas le rapport. C'est au comité d'éthique de définir les limites aux essais cliniques. Ils ont été créés justement pour éviter les éventuelles dérives et s'acquittent très bien de cette tâche. Ils ont défini trois phases pour le protocole expérimental. La première phase est une phase de tolérance. Elle consiste à l'observation des cobayes aux médicaments par les médecins. Durant la deuxième phase, les médecins s'assurent que le rapport bénéfice-tolérance est favorable et qu'il n'entraîne pas d'effets secondaires importants. La troisième phase est l'essai du produit sur un grand groupe de malades. Nous respectons les règles établies par les comités d'éthique. Le rôle du centre est de trouver de nouveaux médicaments afin de faire progresser la médecine.
Faire progresser la médecine n'excuse pas tout. Certains actes sont condamnables et nous devons faire notre possible pour que la situation des cobayes s'améliore.
Pour ou contre, si les cobayes sont nécessaires pour faire avancer la médecine et sauver des vies, ils doivent être prévenus des risques éventuels et réaliser ces tests en toute connaissance de cause. De plus, les comités d'éthique doivent définir des limites stables et concises. Merci à nos chers auditeurs et à nos intervenants, et à bientôt sur Delta FM 90.2.
Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés. Nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse. Même quand nous ne proférons aucune parole. Et que nous ne faisons qu'écouter, lire. Nous parlons même si.